VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra en Centrafrique d'ici à la fin du mois, selon la mission des Nations Unies à Bangui. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pour l'instant, aucun détail n'a été donné sur le jour et le programme de la venue en Centrafrique d'Antonio Guterres. Ce sera sa première visite d'une opération de maintien de paix depuis sa prise de fonction en début d'année. Le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, Adama Dieng, se rend à Bangui ce vendredi. Il va visiter Bria, théâtre de massacre en juin et en août, et doit rencontrer des représentants de groupes armés et des victimes des violences. Le 27 septembre, le président Faustin Archange Touadéra a estimé que parler de génocide n'est pas justifié. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien, avait parlé de situation pré-génocide après plusieurs visites en Centrafrique. Le mandat des 12 500 casques bleus de la MINUSCA prend fin le 15 novembre, mais devrait être renouvelé. La Centrafrique connaît une recrudescence des violences entre groupes armés qui se disputent le contrôle des ressources naturelles.
Au Tchad voisin, le président tchadien Idriss Déby Itno a limogé de hauts responsables politiques et militaires dans le nord du pays. C'est en marge d'une visite dans la région. Eric Maniraquiza.
Idriss Déby Itno a remplacé le gouverneur, le préfet et le commandant d'une zone militaire de la région du Borku Enedi Tibesti dans la ville de Faya Larjo. Cette décision intervient pendant que plane le spectre d'une rébellion aux confins Tchad-Libye. Mi-août, des éléments de l'armée tchadienne ont été attaqués et plusieurs tués non loin de la frontière avec la Libye. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans l'extrême nord du Tchad. Le chaos en Libye a favorisé la naissance de toutes les rébellions au nord. La région du Borku est devenue le lieu de toutes sortes de trafics. Depuis lundi, le président tchadien mène une campagne de sensibilisation pour engager les notables de la région à ne pas se laisser séduire par les sirènes de la rébellion. La ville de Faya Larjo abrite également une base avancée de l'armée française, aujourd'hui rattachée à la force Barkhane, qui lutte contre les djihadistes.
Au Togo, poursuite du mouvement de contestation du régime du président Fornia Singbe. Des milliers de Togolais ont encore manifesté hier à Lomé et en province dans un climat tendu. Et en plus des réformes constitutionnelles pour limiter les mandats présidentiels, les contestataires exigent maintenant le départ du président Fornia Singbe du pouvoir. Depuis fin août, c'est la 7e grande journée de manifestation organisée par l'opposition pour déterminer l'impact réel de ces campagnes de contestation populaire. Eric Maniraquiza a joint Michel Goéakoué, président d'histoire contemporaine à l'université de Lomé.
Le pouvoir en place a été mis en place par l'armée et l'armée est pratiquement derrière. C'est possible que dans l'armée, il y a de jeunes officiers qui ont des velléités démocratiques. Mais pour l'instant, l'armée continue de coller et pour que ça change, il faut vraiment une force d'interposition qui puisse cantonner l'armée, cette armée qui n'est pas républicaine, qui est une armée pratiquement ethnicisée et qui est donc à la solde du pouvoir en place. Donc, il n'est pas sûr que sans contrôle de l'armée, que ce mouvement puisse aboutir parce qu'à chaque fois cette armée est prête à mitrailler les pauvres citoyens. Parce qu'à chaque fois que les mouvements s'organisent, ce n'est pas les forces de l'ordre qui encadrent, mais au contraire, nous avons donc des militaires en armes de guerre qui sont dans les différents coins pour terroriser la population. Ce qui fait que l'issue de cette opération, si elle doit marcher, ce serait dans un bain de sang tel qu'on le prévoit et on le regarde.
Michel Goukoué Akoué, professeur à l'université de Lomé au Togo. La lutte contre les djihadistes au Niger, le commandement militaire américain pour l'Afrique a confirmé jeudi que 3 de ces hommes ont été tués au cours d'une opération antiterroriste menée conjointement avec les forces nigériennes à quelques 200 km au nord de la capitale Niamey. Le gouvernement nigérien a reconnu jeudi soir que 4 de ses soldats avaient été tués et 8 blessés aux côtés des militaires américains. Selon un communiqué du Pentagone, une autre personne de pays non cité a également péri dans cet affrontement. Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU, dans un message ferme aux parties dans la crise malienne, a réclamé jeudi des avancées significatives dans l'application de l'accord de paix de 2015. la France détient ce mois d'octobre la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU et compte mettre l'accent tout au long du mois sur la situation au Sahel et la nécessité de soutenir la lutte régionale contre les groupes djihadistes. Et à ce sujet, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a exhorté jeudi les pays membres de la zone franc à lutter contre le financement du terrorisme et aussi à réduire les déficits publics. C'était à l'occasion d'une réunion à Paris avec ses homologues africains, John Lindon.
Nous avons plusieurs États membres de la zone franc qui sont directement concernés par le terrorisme, a affirmé Bruno Le Maire. Au terme de la réunion des ministres des 14 pays de la zone franc, le ministre français a par ailleurs ajouté que les risques en termes de financement du terrorisme n'avaient jamais été aussi élevés. La question sera d'ailleurs abordée la semaine prochaine à Washington, à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La réunion de Paris a abouti au constat d'un problème de croissance de l'endettement dans les pays francophones. Pour le résoudre, la France propose la réduction des déficits publics, l'accroissement des investissements et la rentrée des recettes fiscales. Les participants ont assuré ne pas avoir parlé d'une éventuelle réforme du franc CFA. Ce n'était pas à l'ordre du jour, a assuré Amadouba, ministre sénégalais des Finances. Et Bruno Le Maire a balayé d'un revers de main une éventuelle dévaluation du franc CFA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique toujours, l'épidémie de peste qui affecte depuis plus d'un mois Madagascar, y compris la capitale Antananarivo, continue de s'aggraver. Et la maladie s'est maintenant propagée aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies enregistrées dans ce domaine. Pour plus de détails sur l'épidémie, Solange Niamoulissa a joint le docteur Charlotte Ndiaye, représentante de l'Organisation mondiale de la santé.
À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 232 cas de peste depuis le mois d'août. Et sur ces 232 cas, 60% de ces cas sont des pestes pulmonaires. Une épidémie à transmission respiratoire et qui se transmet d'homme à homme. Il y a deux formes de peste qui étaient fréquentes à Madagascar. La forme bubonique, c'est-à-dire celle transmise à partir du rat et des puces vers les hommes. Et puis maintenant, on a cette peste pulmonaire qui fait que nous sommes assez préoccupés par la situation actuelle. L'autre problème que nous avons, c'est que cette année, on est face à une peste urbaine. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui sévit dans les grandes villes où on a un taux de population très élevé. Donc on a Tananarivo, Majenga, on a Finaransu et Otamatav. L'épidémie est en train de s'étendre dans la ville de Tuléar qui est au sud de Madagascar et également sur le côté ouest d'une région qui s'appelle Menabe.
Mais quelles sont les mesures prises pour empêcher cette propagation?
L'OMS travaille avec le ministère de la Santé, les autorités, depuis le début de cette épidémie, mettant en place un système de recherche de contact, c'est-à-dire à chaque fois qu'un cas a été notifié, nous recherchons les contacts. Il faut arriver à avoir tous les contacts pour régler le problème de la transmission. Et quand nous recensons ces contacts, nous leur donnons de l'antibioprophylaxie parce qu'ils ont été en contact avec le malade. D'un autre côté, on a mis à la disposition de toutes les structures de santé les traitements nécessaires, les antibiotiques et également on leur a donné les tests de diagnostic rapide.
Et qu'est-ce qui doit être fait pour que cette maladie ne revienne pas l'année prochaine? On sait bien qu'elle a été éradiquée partout dans le monde.
On dit que la peste est endémique, elle existe en permanence à Madagascar. Il faudrait travailler sur l'assainissement, travailler sur une approche culturelle qui veut peut-être voir toutes ces approches culturelles où on parle de remontée des morts, semble-t-il, pourrait faire partie des raisons de transmission. Mais c'est surtout la fréquence de ces rats noirs qui sont porteurs de puces dans lesquels on trouve le bacille responsable de la peste. Insister au niveau des populations sur les mesures d'hygiène. On travaille à faire un plaidoyer auprès du gouvernement malgache pour qu'il accorde une grande importance à cette maladie, qu'il en fasse une priorité et qu'il prévienne cette épidémie puisqu'on connaît la période. Au mois de septembre jusqu'au mois d'avril, nous avons des cas.
Le docteur Charlotte Ndiaye, représentante de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour terminer, le prix Nobel de la paix a récompensé aujourd'hui la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, pour ses efforts contre les armes de destruction massive au cœur des tensions internationales en Iran et en Corée du Nord. Regroupant plusieurs centaines d'ONG, l'ICAN s'est mobilisé en particulier pour le traité d'interdiction de l'arme atomique adopté par 122 pays le 7 juillet à l'ONU. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.